Антон Чехов. Путешествие на остров Сахалин.
Антон Чехов. Le voyage à Sakhalin.
Читает Владислав Галяр.
Lu par Vladislav Galard.
Il y avait autrefois, à l'embouchure de la Naibu, un poste nommé Naibuchi. Un journaliste qui visita Naibuchi en 1871 écrit qu'il y avait 20 soldats commandés par un élève officier. Dans l'une des isbas, une grande et belle femme de soldat lui offrit des œufs frais et du pain noir, se loua de la vie qu'elle menait et ne se plaignit que de la cherté du sucre. Les maisons ont disparu, sans laisser de traces. Et la belle et grande femme de soldat, lorsqu'on contemple le désert qui vous entoure, apparaît comme un mythe. La mer est froide, trouble. Elle mugit, et ses hautes lames blanches se brisent sur le sable et semblent vouloir dire « Seigneur, pourquoi nous as-tu créés ?» C'est déjà le grand océan, l'océan Pacifique. Sur cette rive de la Naibu, on entend résonner les haches des forçats occupés au chantier. L'autre rive lointaine, imaginaire, c'est l'Amérique. À gauche, à travers la brume, on aperçoit les caps de Sakhalin. À droite, ce sont d'autres caps. Alentour, nulle âme qui vive, pas un oiseau, pas une mouche. Et je ne comprends plus pour qui les vagues mugissent. Qui les écoute dans la nuit? Ce qu'elles veulent? Et enfin, pour qui elles mugiront quand je serai parti? Ce qui s'empare de moi sur ce rivage, ce ne sont pas des idées, mais bien une méditation. Je suis saisi d'angoisse. Mais en même temps, je voudrais demeurer ici sans fin, à contempler le mouvement monotone des vagues et à écouter leur bruit menaçant.
Quatrième épisode.
Я видел все на Сахалине.
J'ai tout vu à Sakhalin. 1890, Tchekhov a 30 ans. En 1888, il a reçu le prix Pouchkine, mais la célébrité lui a apporté de l'inquiétude. S'il dit n'avoir aucune position politique, religieuse ou philosophique affirmée, et professer une sorte d'indifférence, il veut savoir pourquoi il écrit, pour qui. À Moscou, aucun de ses amis réunis au matin du 21 avril 1890 sur le quai de la gare de Yaroslav ne comprend les vraies raisons de son départ pour Sakhalin, terre de relégation et d'effroi, où se sont succédés depuis l'institution du bagne par Pierre le Grand en 1722 d'innombrables convois de déportés, 50 jours de chaos et de boue, de terres gelées et de rivières en crue, 11 000 verstes, 12 000 kilomètres, bientôt la poussière et une chaleur soudaine, suffocante, les moustiques, la taïga qui semble sans fin, et toujours les punaises, l'invincible ennemi qui attend le voyageur éreinté au relais de poste. Le 11 juillet, Tchekhov, qui s'est baigné dans l'amour, touche aux confins orientaux de l'Empire et débarque au poste d'Alexandrovsk après avoir franchi la Manche de Tatarie. L'écrivain va séjourner 3 mois et 2 jours sur cette langue de terre désolée qui fait 2 fois la superficie de la Grèce. Il y a tout vu, sauf une exécution capitale. Au retour, il lui faudra 3 ans pour dépeindre l'odieuse réalité qu'il a rencontrée. Un véritable enfer, confesse-t-il, en plein océan Indien, sur le bateau qui le ramène à Odessa.
Алексей Сергеевич Суворин.
Алексей Суворин, homme de lettres et éditeur, propriétaire du journal Temps Nouveau, l'un des quotidiens les plus lus de toute la Russie. Suvorin publie les récits de Tchekhov dès 1886 et devient une sorte de père de substitution pour l'écrivain. Jusqu'à l'affaire Dreyfus, qui met fin en 1894 à l'amitié entre les deux hommes.
Détroit de Tatarie.
Tatarski zaliv.
À bord du Baïkal.
На борту Байкала. 11 сентября 1890.
Le 11 septembre 1890. Bonjour. Je vogue par le détroit de Tatarie, du nord au sud de Sakhaline. Je vous écris sans savoir quand cette lettre vous parviendra. Je suis en bonne santé, bien que cerné par le choléra qui de tous côtés m'épie de ses yeux verts. À Vladivostok, au Japon, à Shanghai, à Tchéfou, à Suez, et semble-t-il même sur la Lune, partout le choléra, la quarantaine et la peur. Bref, c'est la catastrophe. Des Européens meurent à Vladivostok. J'aurais passé 2 mois exactement dans le nord de Sakhaline. J'ai pu voir tout. J'ai eu la patience de recenser toute la population de Sakhaline. J'ai fait le tour de toutes les colonies, suis entré dans toutes les izbas et j'ai parlé à chacun. J'ai utilisé pour ce recensement un système de fiches et j'ai enregistré près de 10 000 bagnards et colons. En d'autres termes, pas un seul bagnard ou un seul colon de Sakhaline qui n'ait parlé avec moi. Je fonde pas mal d'espoir sur le recensement des enfants, qui est particulièrement réussi. J'ai assisté au châtiment du fouet. 2 ou 3 nuits durant, j'ai rêvé du bourreau et de l'atroce chevalet. J'ai bavardé avec ceux qui étaient enchaînés à leur chariot. Un jour où je buvais du thé à la mine, l'ex-marchand pétersbourgeois Borodavkin, expédié ici pour incendie criminel, a sorti de sa poche une cuillère à café qu'il m'a tendue. Moi, en fin de compte, je me suis démoli les nerfs et je me suis bien juré de ne plus jamais aller à Sakhaline. Je vous en aurais raconté davantage, mais il y a dans la cabine une demoiselle qui ne cesse de pouffer de rire et de jacasser. Je n'ai plus la force d'écrire. Elle rit et caquette depuis hier soir. Demain, je verrai de loin le Japon et l'île de Matsumae. Il est maintenant minuit, la mer est sombre, le vent souffle. Quand je réalise que 10 000 verstes me séparent du monde, je suis pris d'apathie. Il me semble que je serai de retour dans un siècle. Mes très respectueuses et cordiales salutations à Anna Ivanovna et à tous les vôtres. Soyez heureux et que grâce à Dieu, tout aille bien pour vous. Votre Anton Tchekhov.
Отрывок. Остров Сахалин.
Extrait de l'île de Sakhaline.
Il y a dans la prison de Voïevodsk des détenus enchaînés à leur brouette. 8 hommes en tout. Ils logent dans des dortoirs cellulaires avec les autres et passent leur temps dans l'inactivité la plus totale. Tout au moins, dans le descriptif de répartition des travaux forcés par catégorie, ils figurent au titre des non-travailleurs. Chacun d'eux porte des chaînes aux pieds et aux mains. Au milieu de celle des mains, on est rivé une autre, longue de 3 à 4 arshins, fixée à son autre bout, au fond d'une petite brouette. Les chaînes et la brouette restreignent les mouvements de celui qui les porte, au point qu'il s'efforce d'en faire le moins possible, ce qui entraîne indiscutablement la dégénérescence musculaire. Ses bras sont tellement habitués à ressentir leur poids au moindre geste que lorsqu'il est enfin débarrassé de cet appareil, longtemps encore ses membres demeurent gourds et effectuent sans aucune nécessité des mouvements brusques et violents. Par exemple, s'il prend une tasse, il répand la moitié de son contenu comme un choréique. À l'heure du coucher, il glisse sa brouette sous son bas-flanc. Afin de rendre la chose plus facile, on le place d'ordinaire en bout de la couche commune.
À sa mère, Yevgenia Yakovlevna Tchekova.
Sakhaline Sud, poste de Korsakov.
Yuzhny Sakhalinsk, Korsakov.
Le 6 octobre 1890. Bonjour chère maman. Je vous écris cette lettre quasiment à la veille de mon départ pour la Russie. Nous attendons d'un jour à l'autre le bateau de la flotte volontaire et nous espérons que le 10 octobre au plus tard il sera là. J'expédie cette lettre au Japon, d'où elle vous arrivera par Shanghai ou l'Amérique. Je suis au poste de Korsakov, où il n'y a ni télégraphe, ni bureau de poste, et où les navires ne passent pas plus d'une fois tous les 15 jours. J'en ai assez de Sakhaline. Voilà 3 mois en effet que je ne vois personne, excepté les bagnards, et des gens qui ne savent parler que bagne, fouet et bagnard. Triste vie. Je désire gagner au plus vite le Japon, et de là, l'Inde. Mes respectueuses salutations à Papacha, à mes frères, à Masha, à Mariushka, à Ivanenko et à tous les amis. Je ne rapporterai pas de fourrure, il n'y en a pas à Sakhaline. Portez-vous bien et que le ciel vous garde, tous. votre Anton.
Анатолию Федоровичу Коне.
Анатолий Федорович Кони, juriste, procureur à la Cour de cassation, ami de Tolstoï, à qui il a fourni en 1888 le sujet de Résurrection, à partir du cas réel d'une prostituée. Il fait la connaissance de Tchekhov à son retour de Sakhaline.
Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg. Le 26 janvier 1891. Cher monsieur Anatoli Fedorovitch, mon bref passé sakhalinien a pris à mes yeux de telles proportions que lorsque je veux en parler, je ne sais pas par quoi commencer et j'ai l'impression à chaque fois de n'avoir pas dit ce que j'aurais dû dire. Je vais tâcher de vous décrire en détail la situation des enfants et des adolescents de Sakhaline. Elle est incroyable. J'ai vu des enfants affamés, des filles entretenues de 13 ans et des filles enceintes de 15. Les filles commencent à se prostituer dès l'âge de 12 ans, parfois même avant d'avoir eu leurs règles. L'église et l'école n'existent que sur le papier. L'éducation des enfants est faite par l'environnement et les conditions de vie au bagne. Il y avait avec moi, sur le bateau qui allait à Sakhaline par l'amour, un détenu, les fers aux pieds, qui avait tué sa femme. Sa fille se trouvait avec lui, une fillette d'environ 6 ans, orpheline. J'ai noté que lorsque le père descendait du pont supérieur pour aller au water, il était accompagné de son escorte et suivi de sa fille. Tant que l'autre restait assis aux toilettes, le soldat armé d'un fusil et la fillette restaient debout à la porte. Quand le détenu remontait l'escalier, la fillette l'escaladait derrière lui, en s'accrochant à ses fers. La nuit, elle dormait dans le même tas que les détenus et les soldats. Je me souviens d'un enterrement auquel j'ai assisté à Sakhaline. On enterrait la femme d'un déporté qui était, lui, parti pour Nikolaïevsk. Près de la tombe fraîchement creusée se tenaient quatre bagnards, porteurs ex officio, le trésorier et moi, en qualité de Horatio et Hamlet, déambulant à travers le cimetière, un tcherkès par désœuvrement, et une bonne femme déportée, venue, celle-là, par pitié. Elle amenait les deux enfants de la défunte, un bébé encore au sein, et l'autre, Aleshka, un petit garçon d'environ 4 ans, vêtu d'un chemisier de femme et de pantalon bleu avec des pièces de couleur vive aux genoux. Il fait froid, humide, la tombe est pleine d'eau, les bagnards rigolent, on voit la mer. Aleshka contemple avec curiosité la tombe. Il veut essuyer son nez, mais les longues manches de son chemisier l'en empêchent. Tandis qu'on recouvre de terre le cercueil, je lui demande « Alyosha, où est ta mère ?» Il agite les bras comme un hobereau qui aurait tout perdu. Il rit et dit « Enterré ». Les bagnards rient. Le tcherkès se tourne vers nous, nous demande où caser les enfants. Je n'ai pas rencontré de maladie infectieuse à Sakhaline. La syphilis héréditaire est très peu répandue. J'ai vu, par contre, des enfants aveugles, sales, couverts d'impétigo, toute maladie qui témoigne de leur abandon. Je ne résoudrai pas, bien sûr, le problème de l'enfance. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais il me semble que ni la philanthropie, ni le reliquat des sommes allouées aux prisons et autres n'y pourront rien. Votre sincèrement respectueux et dévoué Anton Tchekhov.
Алексей Сергеевич Суворин.
Богимово.
Богимово. 27 мая 1891.
Le 27 mai 1891.
4 часа утра.
4 heures du matin. Vous m'écrivez que sous le stuc, je suis quelqu'un de dur comme la pierre, qui ne donne rien à votre journal. Mais mettez-vous un peu à ma place. Sakhaline pèse à mon cou. J'écrirai volontiers quelques babioles. Je m'y suis déjà essayé. Mais la pensée qu'à l'automne je dois en avoir fini avec Sakhaline paralyse toutes mes facultés. Patientez un peu, ma colombe. Bientôt je n'aurai plus ce bagne sur le dos et je serai tout à vous, de la tête aux pieds. Je vous donne ma parole d'honneur que le livre sur Sakhaline sera à l'impression cet automne. Car j'écris maintenant, je vous le jure, sans relâche. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous envoyer des pièces à conviction. Comme je me lève avec les poules, personne ne me dérange dans mon travail, qui bat son plein, même s'il est fastidieux et minutieux, sans que le jeu envahisse la chandelle. La moindre misérable ligne exige que je fouille dans mes papiers et relise une masse d'informations pendant toute une heure. Écrire sur le climat ou composer par bribes un essai historique et critique sur le bagne, mon Dieu, quel ennui! Portez-vous bien, ne cédez pas aux pensées saumâtres, tout ira bien. Mes respectueuses salutations à Anna Ivanovna, Nastia et Boris. Votre Anton Tchekhov.
Отрывок. Остров Сахалин.
Extrait de l'île de Sakhalin.
Pour être complet, il faut dire quelques mots de la population aborigène, des Gilyaks. Les Gilyaks ne se rattachent ni aux Mongols ni aux Tungouzes, mais à une tribu inconnue qui fut peut-être puissante, qui peut-être domina toute l'Asie, et qui achève de vivre ses derniers siècles sur cette langue de terre. Le visage du Gilyak est rond, plat, en forme de lune, jaunâtre, les pommettes fortes, les yeux bridés, la barbe rare, presque inexistante. Les cheveux sont plats, noirs, durs et rassemblés sur la nuque en petites tresses. L'expression ne trahit aucunement le sauvage, elle est toujours réfléchie, humble, naïvement attentive. Tantôt elle s'éclaire d'un sourire large et béat, tantôt elle devient pensive et douloureuse. Comme celle d'une veuve. Le corps du Gilyak est robuste et trapu. Il est de taille moyenne, petite même. Une taille trop élancée le gênerait dans la taïga. Son ossature est forte et se distingue par la proportion volumineuse de toutes les apophyses, crêtes et éminences où s'insèrent les muscles, ce qui suppose une musculature très développée et vigoureuse, faite pour livrer contre la nature une lutte incessante. Il est sec et nerveux, dépourvu de tégument adipeux. On ne voit jamais de Gilyak gras ou obèse. Selon toute apparence, il brûle toutes les graisses pour produire les grandes quantités de chaleur dont le corps d'un sakhalinien a besoin, afin de compenser les pertes provoquées par les basses températures et l'humidité excessive. Et l'on comprend alors pourquoi sa nourriture est si grasse. Chair de phoque, de saumon, graisse d'esturgeon et de baleine, viande saignante, tout cela en grande quantité, à l'état cru, sec et souvent gelé. Son alimentation est exclusivement animale. D'après le témoignage de Nevelskoy, le Gilyak considère l'agriculture comme un grand péché. Quiconque fouille la terre ou y plante un arbre ne tarde pas à mourir. Les Gilyaks ne se lavent jamais, si bien que les ethnographes eux-mêmes ont de la peine à déterminer la véritable couleur de leur figure. Ils ne lavent pas leur linge non plus. Quant à leurs vêtements de fourrure et à leurs bottes, ils ont l'air d'avoir été arrachés 5 minutes plus tôt à la carcasse d'un chien crevé. Les Gilyaks dégagent une odeur âcre et lourde, et la proximité de leur logis se reconnaît à des relents fétides, parfois à peine supportables, de poissons séchés ou de déchets pourris. D'ordinaire, on aperçoit près de chaque yourte un séchoir garni jusqu'en haut de poissons ouverts et étalés, qui de loin et surtout lorsqu'ils sont éclairés par le soleil, ressemblent à des fils de corail. À côté des séchoirs, Krusenstern a vu un grouillement d'asticots 1 pouce d'épaisseur. En hiver, la yourte est pleine d'une fumée piquante qui provient du foyer, mais aussi du tabac que fument les Gilyaks, leurs femmes et même leurs enfants. Chaque auteur commente le caractère des Gilyaks à sa manière, mais tous sont d'accord pour dire qu'ils n'ont rien de belliqueux, qu'ils répugnent aux querelles et aux bagarres et s'accommodent pacifiquement de leurs voisins. De même, la notion d'autorité familiale leur est inconnue. Le père ne songe pas qu'il est supérieur à son fils, le fils ne l'honore nullement et vit à sa guise. Tous les hommes d'une famille sont égaux entre eux. Si vous leur offrez de la vodka, il faut en régaler même les tout-petits. Quant aux femmes, elles sont toutes égales dans l'absence totale de droit. Qu'il s'agisse de la grand-mère, de la mère ou d'une fillette au berceau, on ne les respecte pas plus que les animaux domestiques, qu'un objet qu'on peut jeter ou vendre, ou qu'un chien qu'on chasse à coups de pied. Encore que les chiens, les Gilyaks les caressent parfois. Les femmes, jamais. Le Gilyak troque un épieu, une barque ou un chien contre une jeune fille qu'il emmène dans sa yourte et avec laquelle il s'étend sur une peau d'ours. Un point, c'est tout. Strindberg, ce misogyne célèbre qui voudrait que la femme fût uniquement destinée à se soumettre aux caprices de l'homme, se trouve par conséquent en communion d'idées avec les Gilyaks. S'il venait à Sakhalin Nord, ils pourraient se donner de longues accolades.
À Piotr Ilyitch Tchaïkovski.
Piotr Ilyitch, c'est le fameux musicien. Impressionné par une nouvelle de Tchekhov parue dans Temps Nouveau en 1887, il fait part de son admiration à son frère Modeste. N'est-ce pas un grand talent ? Tchekhov, qui le vénère infiniment, lui dédicacera son recueil des gens maussades.
Moskva.
Moscou.
Le 18
octobre 1891. Très honoré Piotr Ilyitch. J'ai bon pied, bon œil, j'écris beaucoup, mais publie peu. Une longue nouvelle de moi, le duel, paraîtra bientôt dans Temps Nouveau. Mais ne la lisez pas dans le journal. Je vous enverrai le livre qui doit sortir début décembre. Sakhaline n'est toujours pas fini. Votre sincèrement respectueux et infiniment dévoué, Anton Tchekhov.
Алексей Сергеевич Суворин. Мелехово.
Мелехово. Le 28 juillet 1892. Le printemps a été pour moi détestable. Je vous en ai déjà parlé. Hémorroïdes et humeur exécrable de psychopathe. J'étais furieux et je m'ennuyais. Les miens refusaient de me pardonner cette humeur, d'où des chamailleries quotidiennes et de ma part, une mortelle nostalgie de la solitude. Ce fut un sale printemps, glacial, et nous n'avions pas d'argent. Mais, un souffle de zéphyr, l'été arriva, et tout disparut comme par enchantement. L'été fut étonnant. Très rare. Une accumulation de journées chaudes et lumineuses et un trésor d'humidité. Une aussi heureuse combinaison ne se produit probablement qu'une fois par siècle. J'ai envoyé mon Sakhaline à l'impression. Je le recommande à votre attention. Oubliez ce que je vous avais fait lire autrefois, cela ne sonnait pas juste. J'ai longtemps avancé avec le sentiment que je n'étais pas sur la bonne voie, jusqu'au moment où j'ai enfin saisi ce qui sonnait faux. Eh bien, c'était le fait que je voulais, avec mon Sakhaline, tout en ne disant pas tout et en me surveillant, donner en quelque sorte des leçons. Mais dès que je me suis mis à décrire combien j'avais l'impression d'être un toqué à Sakhaline, et quel port on y croise, tout est devenu facile pour moi. L'œuvre s'est mise à jaillir. Les premiers chapitres paraîtront dans le fascicule d'octobre de la Pensée russe. Vous avez envie de faire la fête. Moi, j'en ai une envie terrible. Un infernal désir de mère. Passer une semaine à Yalta ou à Féodossia serait pour moi un vrai délice. Envie de liberté et d'argent. Rester sur le pont d'un bateau à siffler du vin et parler littérature et réserver le soir aux dames. Bonne chance. Écrivez. Votre Anton Tchekhov.
Ostrov Sakhalin.
L'île de Sakhaline.
De toutes les peines auxquelles on recourt à Sakhaline, celle du fouet est la plus révoltante. Et les juristes de la Russie d'Europe qui condamnent les rôdeurs et les récidivistes y auraient renoncé depuis longtemps si le supplice se déroulait sous leurs yeux. Mais l'article 478 du règlement, selon lequel les condamnations des tribunaux de Russie et de Sibérie sont exécutoires au lieu de relégation même, les protège de ce spectacle honteux, humiliant. Moi, je l'ai vu, à Douy. Prokhorov, un vagabond de 35 à 40 ans, s'était évadé de la prison de Voïevodsk. Il s'était construit un petit radeau et avait tenté de rejoindre le continent. Mais on l'avait aperçu et une vedette se lança à sa poursuite. En instruisant son affaire, on consulta son casier judiciaire et l'on y fit une découverte. L'année précédente, ce même Prokhorov avait été condamné à 90 coups de fouet, et à l'enchaînement à la brouette pour l'assassinat d'un cosaque et de ses deux petites filles. Châtiment qui, par suite d'une négligence, n'avait pas été appliqué. Si Prokhorov ne s'était pas mis en tête de s'évader, peut-être l'erreur serait-elle passée inaperçue, mais à présent, il n'y avait plus moyen d'échapper au supplice. Au jour dit, le 13 août au matin, l'inspecteur de la prison, le médecin et moi-même nous rendîmes au secrétariat. On introduisit Prokhorov. Le médecin, un jeune Allemand, lui enjoignit de se dévêtir et lui examina le cœur, afin de déterminer combien de coups il pourrait supporter. Le certificat rédigé, nous allons tous à la salle des surveillants, un vieil édifice gris, ou plutôt une baraque. Au milieu de la salle, il y a un banc en plan incliné, percé d'interstices qui permettent de lier les pieds et les mains. Tolstoï, le bourreau, un grand homme, charnu, bâti comme un athlète, en manches de chemise et le gilet déboutonné, fait un signe de tête à Prokhorov. Celui-ci s'allonge en silence. En silence et prenant son temps lui aussi, Tolstoï lui baisse la culotte jusqu'au genou et lui lie lentement les bras et les jambes au banc. L'inspecteur jette de temps à autre un coup d'œil indifférent par la fenêtre. Le docteur fait les 100 pas. Le voilà enfin attaché. Le bourreau prend un fouet à 3 lanières et le démêle sans hâte. « Tiens-toi, » dit-il à mi-voix, en lui envoyant le premier coup, sans prendre d'élan, comme pour s'ajuster. « Hein ?» dit l'inspecteur d'une voix de sacristain. Au premier moment, Prokhorov se tait et son expression ne change même pas. Puis un frisson le parcourt, et ce qu'il laisse échapper n'est pas un cri, mais un hurlement. « Deux !» crie l'inspecteur. Le bourreau se tient de côté et frappe de telle sorte que les coups tombent en travers du tronc de sa victime. Tous les 5 coups, il change de côté et lui laisse une demi-minute de répit. Les cheveux de Prokhorov sont collés à son crâne. Son cou s'est gonflé. Au bout de 5 à 10 coups, son corps, déjà couvert de vieilles balafres, est devenu violacé, presque bleu. À chaque coup, l'épiderme craque. Au bout de 20 à 30 coups, Prokhorov gémit comme un homme ivre ou délirant. Puis le cou se tend de manière étrange. On entend des haut-le-cœurs. Prokhorov ne dit plus un mot, ne sait plus que geindre et râler. On dirait que depuis le début du supplice, une éternité entière s'est écoulée. Mais l'inspecteur n'en est qu'à 42, 43. Jusqu'à 90, il y a loin, je sors. La rue est plongée dans le silence et les bruits déchirants qui montent de la salle des surveillants doivent s'entendre dans tout Douy. Un forçat civil passe dans la rue, jette un rapide coup d'œil à la salle des surveillants et son visage, sa démarche même, exprime l'épouvante.
Anton Tchekhov, Le voyage à Sakhaline, 4e épisode, J'ai tout vu à Sakhaline. Lu par Vladislav Galard. Texte choisi par Jean Torrent. Avec les voix de Hodja Lorca et Olga Kokorina. Violoncelle et chant, Vladislav Galard. Réalisation, Christophe Hoquet. Prise de son, montage, mixage, Bastien Varigaud, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Les lettres d'Anton Tchekhov sont tirées de Vivre mes rêves, lettres d'une vie, traduction Nadine Dubourvieux, édition Robert Laffont, et des lettres de voyage, traduction Françoise Darnal-Lainé, édition de l'Harmattan. L'île de Sakhaline, traduction Lily Denis, est publiée aux éditions 100 pages.